Mach's so. Le matin.
6h35 minutes, on est le 26 mai 2026. Bon matin, bon mardi, c'est 11 degrés sur Québec. C'est du soleil qu'on a présentement. Peut-être gâché cet après-midi parce qu'on nous parle de risque d'orage cet après-midi. C'est très, très humide. Je regardais le taux d'humidité extérieur. On est à 99%, Jeff.
C'est énorme.
Ça commence à être humide sur un petit temps. Ce soir, cette nuit, c'est des averses, 30% de probabilité, avec un minimum de 14. Demain, mercredi, c'est du soleil, 30% de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 20. Jeudi, ce sera nuageux, avec des probabilités d'averse à 60%, maximum de 12 degrés. Et vendredi, dernière journée de la semaine de travail, ben, ce sera nuageux avec un 30% de probabilité d'averse, maximum de 14 degrés.
Je ne veux pas être prophète de malheur, mais ça semble s'enligner pour être une autre compliquée sur la route. Là. Déjà pour l'accès aux deux ponts direction nord, il y a du gros rouge foncé sur la carte. Sur la rive nord, c'est pas commencé encore.
Les news 102.1.
6.36, Max, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui?
Malgré une faillite toujours en cours et des dettes évaluées à 375 millions de dollars, le promoteur immobilier Stéphane Huot participe actuellement à plusieurs projets résidentiels dans Lobinière. Le promoteur agit comme consultant pour deux développements à Sainte-Croix, soit le domaine de la Rive et le quartier de la Croisée. Ensemble, les projets qui prévoient la construction d'une centaine d'unités résidentielles, incluant des maisons unifamiliales et des jumelées. Selon les infos obtenues par le bureau d'enquête du Journal de Québec, Stéphane Huot souhaite aussi développer un petit centre commercial dans la municipalité. Le projet qui pourrait notamment regrouper une pharmacie, une SAQ, une coopérative de médecins et une nouvelle épicerie. Le maire de Sainte-Croix, Stéphane Dion, confirme l'implication du promoteur, assurant que la municipalité prend des mesures pour protéger les intérêts des citoyens. Huot qui avait déclaré des dettes de 1,2 milliard de dollars lors de la faillite du groupe Huot en 2023. Ses créanciers s'opposent toujours à sa libération de faillite, invoquant sa gestion financière et son train de vie. Le ministère des Transports et de la Mobilité Durable veut réaménager l'autoroute de la capitale sur une distance d'environ 15 km pour corriger ce qu'on qualifie de dysfonctionnement chronique qui a des impacts sur l'ensemble du réseau routier de Québec. Radio-Canada rapporte que le tronçon jugé problématique est situé entre l'autoroute Henri IV à l'ouest et le boulevard Armand-Paris à l'est. Le ministère qui indique que cette portion d'autoroute-là, construite dans les années 70, n'a pas été conçue pour l'achalandage d'aujourd'hui. Différents scénarios de réaménagement majeur du tronçon et de reconfiguration de ses principaux échangeurs ont donc été évalués et un appel d'offres a été publié pour déterminer lequel des scénarios permettrait d'améliorer plus efficacement la fluidité de la circulation. Le projet de refonte qui inclurait la mise à niveau des infrastructures, la régularisation du nombre de voies de base, l'épuration du nombre d'entrées et de sorties et l'élimination de zones de conflit, c'est ce que note Radcan. Et on mentionne aussi que le document n'offre pas de description détaillée des scénarios à l'étude, ni d'échéanciers, ni de coûts pour la réalisation des travaux. Faut qu'on est vraiment à la base de tout ça, mais semble-t-il qu'on y travaille.
Okay, je veux être bien sûr parce que tu me parles du boulevard Armand-Paris, là, ça c'est dans le secteur de Beauport.
Oui, exactement.
Donc, si vous prenez là, la bretelle sur la 440, là, donc vous êtes à la hauteur du fleuve, vous commencez à monter sur la capitale. Armand-Paris, c'est carrément dans le haut de la côte.
Oui, exactement.
Donc, c'est là que ça partirait. Et là, tu me dis que c'est jusqu'à Henri IV?
Ben, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est tout le bout où c'est compliqué.
C'est à la capitale
tout le
au
temps,
complet.
Là. C'est à la capitale au complet.
Ouais. OK. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas encore parlé du fameux tronçon là, qui meurt à la hauteur d'Henri IV. Je montrais ça à Max l'autre jour.
Oui, oui, oui.
Il est encore réservé, ce territoire-là. Tu sais, ça passe... Parce que, regarde, à la fin de la capitale là, qui meurt sur Henri IV, il y a un tronçon, l'autre bord qui était réservé, c'est des terrains qui étaient réservés pour aller, écoute, pour passer proche de l'aéroport de Québec, puis aller rejoindre, c'est la 40 à l'autre bout. Donc, si je ne me trompe pas, c'était Fossambeau. C'était route Fossambeau où on pouvait déboucher. Puis ça, ce secteur-là, il pourrait être retravaillé. Là. Ça enlèverait toute la grosse pression qu'on a à la hauteur du bas de la côte Henri IV. Ouais.
Ben, c'est parce que là, les gens, autant pour aller sur la rive sud qu'aller prendre la 40 en direction ouest, ils passent tous par Henri IV.
Exact.
Mais tandis que là, tu diviseras en deux.
C'est ça.
Puis un paquet de maisons, ça serait de la... Ce serait du trouble.
Ben, en fait, c'est pas de trouble. Le terrain est réservé depuis des années. C'est l'ancien maire de l'ancienne Lorette, Émile Loranger, qui avait mis son droit de veto là, parce qu'il était très mécontent de ce type de projet-là. Puis devine qui avait mis fin à ça, ce projet-là, c'était Éric Kerr. Ils ont eu un bel historique, là, Éric Kerr puis Émile Loranger. Là. Fait qu'on ne sait pas trop ce qu'ils ont négocié ensemble. Mais ça, il faudrait peut-être le revoir parce que le terrain est toujours disponible pour continuer la capitale dans ce secteur-là.
Oui, c'est du boisé. Tu sais, t'as des quartiers résidentiels des deux bords, mais tu aurais de la place, théoriquement.
Exact.
Peut-être qu'il faudrait que tu enlèves une coupe de maison, là. Il faudrait peut-être que tu expropries une couple de personnes.
Mais le tronçon entre le fleuve là, qui part de la capitale jusqu'à Henri IV, revoir tout ça, on en a pour combien d'années, Jeff?
Ben écoute, ça 10 km, c'est 4 ans sur la rive sud.
On embarquerait là-dedans?
Sur la refonte de la capitale, comme ouais. Ça? Ah, ça va être un 6, 7 ans. Ça a pris combien de temps élargir Henri IV?
Puis ça doit être ça.
Ça, c'est à partir du moment où on a un plan puis qu'on y va avec les travaux. Là, parce que là, à date, là, tout ce qu'on fait, c'est on a des scénarios, on a un appel d'offres puis on veut trouver une compagnie qui va nous dire c'est lequel le meilleur des scénarios. Donc là, on est au début. Là. Fait que ce ne sera pas fait avant 10-15 ans.
Parce qu'on a reconfiguré Henri IV en l'élargissant, mais surtout aussi en changeant les entrées-sorties, là, c'est exactement ce qu'on veut faire avec la capitale. Mm-hmm. Modifier les entrées-sorties pour qu'il y ait une plus grande fluidité. Fait que oui, c'est un 6-7 ans.
On reste sur les routes puis dans les problèmes de fluidité. Pont à étagement, coin Robert Bourassa-Le Bourgneuf. Le conseil de quartier de Le Bourgneuf qui a perdu espoir malgré l'engagement de Christine Fréchette dans la course à la chefferie de la CAQ. La présidente du conseil, Lise Bilodeau, dit avoir espéré, mais il n'y croit plus. Puis là, c'est intéressant parce que ce qu'elle dit, c'est que pas plus tard que la semaine passée, le conseiller municipal Maxime Elmalet leur a dit que ça avait été mis de côté complètement, qu'il n'a jamais parlé d'une possibilité que ça revienne. Mme Bilodeau dit qu'ils sont en train de débâtir la ville de Québec avec le tramway. On densifie, mais la priorité, c'est pas le Bourgneuf. La priorité, c'est le centre-ville. Faut dire qu'en entrevue sur nos ondes la semaine passée, le ministre responsable de la capitale nationale, Jean-François Simard, a laissé entendre assez clairement qu'il y a une annonce qui devait arriver sous peu dans ce dossier-là. Mais le sous peu, on sait pas trop c'est quand, mais ça pourrait être une histoire de semaine, fait que à suivre.
Ben, pour ce qui est de Jean-François Simard qui a dit ça sur nos ondes la semaine dernière, il y a peu de gens qui y croyaient là, qu'on remette ce projet-là sur les rails.
Ouais.
Mais je regarde la Fréchette aller, là.
Ben oui,
j'ai l'impression que c'est le meilleur temps pour têter le provincial pour avoir des cadeaux à Québec.
Ben, en plein ça fait partie du fameux plan de 100 jours. T'sais, moi, j'ai un crochet par jour, là. Puis ce qu'on comprenait de ce que Jean-François Simard nous a expliqué, c'est que ça faisait partie du crochet par jour pour 100 jours et pas la transformation de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain. Ça, il avait fermé la porte complètement.
Le gouvernement du Québec qui devrait, puis ça aussi, on peut quasiment prendre ça pour un crochet de 100 jours, là, le gouvernement du Québec qui devrait finalement adopter une loi interdisant la vente de boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans. C'est Radio-Canada qui a appris que tous les partis politiques ont été convoqués hier à une rencontre et que si ils donnent tous le feu vert, ben, la loi pourrait être rapidement adoptée avant la fin de la session parlementaire en juin. Pour l'instant, Québec qui interviendrait strictement sur la question de l'âge de la vente, parce que le rapport en 2023, il y avait aussi histoire d'interdire la promotion auprès des mineurs et dans les centres sportifs. Il y avait question de peut-être mettre un prix minimum sur les boissons énergisantes, instaurer une taxe aussi. Pour l'instant, ce serait vraiment juste l'interdiction de la vente au moins de 16 ans. Rapport qui suivait, je vous rappelle, le décès de Zachary Miron, 15 ans, après la consommation d'une Red Bull dont les ingrédients ont interagi avec un médicament pour le TDA.
C'est très bonne chose. Ça va être une très bonne mesure. Je suis 100% pour ça. En ayant jasé avec des médecins, il y a de plus en plus de jeunes qui ont besoin de stimulateurs cardiaques en raison de la consommation de ce type de boisson-là. Plus tu vas légiférer dans ce dossier-là, moins que tu vas avoir de l'autre côté des jeunes de 14, 15, 16, 17 ans qui ont besoin de stimulateurs cardiaques. Mm-hmm. Un pacemaker, Jeff, à 16 ans,
ça a aucun sens.
17 ans, 18 ans. Puis en même temps...
Mais t'es censé être dans la fleur de l'âge, dans la fleur de ton physique.
Puis les adultes, il faut se parler aussi. Là. Tu sais, je parle aux gars de construction présentement là, qui travaillent pas mal plus fort physiquement que toi puis moi. Là.
Oui, nous autres, on est assis, ça va bien.
Ces gars-là, des fois, vont chercher 3-4 Red Bull puis ils consomment ça par jour.
Ben non, c'est ça. Puis là, à monter des escaliers, à transporter du matériel, à être dans des positions épouvantables, le cœur va lâcher.
Puis c'est pas tous des gars qui ont comme meilleurs amis des diététiciennes. Là.
Fait non, que, c'est ça.
Tout le mélange je fais en sorte que ça se peut que tu te ramasses à l'hôpital.
Ah ouais, t'es en train de dire que quand le petit camion casse-croûte passe là, avec la petite sonnette, là, cling, 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 les gars descendent pour aller chercher.
Ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps de manger diète. Là.
Mais non.
Ils essayent le plus possible de passer au travers de leur journée. Mais c'est ça, on les voit au dépanneur arriver. 4, 5, Monster.
Puis des gros 4-5
Monster
canettes,
par
là.
Jour. C'est l'hôpital qui t'attend dans 2-3 ans, mon ami.
Caroline, si c'est pas le cœur, ça va être les reflux gastriques. Oublie ça, t'es en train de te scraper l'intérieur.
Une petite dernière blaroute.
Un projet informatique en santé qui devait coûter 18 millions de dollars coûtera plus de 126 millions de dollars, révèle une enquête de Radio-Canada. On parle du projet informatique d'orchestrateur des rendez-vous de santé. Fait que ça sert à mettre en relation des patients sans médecin de famille avec des cliniques médicales qui ont des rendez-vous à offrir. Et le projet affiche une hausse des coûts hallucinante de 600%. Santé Québec qui évoque carrément une perte de contrôle sur les coûts. Puis Radcan nous explique un peu comment tout ça est arrivé. On dit que le projet d'orchestrateur, ça a été géré par le ministère de la Santé et des Services sociaux jusqu'au transfert de responsabilité à Santé Québec en 2024.
L'orchestrateur, là, c'est un truc pour prendre des rendez-vous, c'est ça?
Exactement. Ouais. Les décideurs qui ont bien apprécié le programme, ça allait bien, fait qu'on a demandé plusieurs fois à l'entreprise d'élargir sa portée à plus de cliniques, d'ajouter des fonctionnalités, fait que c'est venu avec des augmentations de coûts. Et malgré ça, Santé Québec a lancé un appel d'offres pour recréer un orchestrateur de A à Z. Fait qu'on avait un qui marchait, ça allait bien, on a payé des millions et des millions et des millions pour ajouter des options, puis on a dit, c'est-tu quoi, on va en prendre un nouveau. Ça a l'air que c'est le coût des licences là, qu'on trouvait trop cher, puis que c'est ça qui explique qu'on voudrait aller avec un nouveau programme, contrat qui a d'ailleurs été confié à la firme québécoise CGI. Il y a une source de Radio-Canada qui l'illustre bien là, chez Santé Québec, qui dit que c'est comme un client qui a une voiture en location à long terme, mais qui demande toujours des nouvelles options, changement de peinture, l'ajout d'un aileron, tout ça, pour finalement décider de s'acheter une deuxième voiture pour l'utiliser à la place de la première. Je trouve que ça résume bien la situation. Les
sports. 6h46, Max Larouche s'est couché très tard. Je me suis couché très tard. Jeff s'est couché très tard pour voir le Canadien perdre en période de prolongation. Bon Dieu que c'était pas beau à voir.
Autre défaite de 3-2 qui permet aux Hurricanes de prendre les devants 2-1 dans la série. Le Canadien qui a encore été surclassé au chapitre des tirs à hauteur de 38 contre 13. L'ailier Andrei Svechnikov qui a mis fin au débat en supplémentaire, lui qu'on n'avait pas beaucoup vu jusqu'à maintenant dans la série. Le match numéro 3 qui sera disputé demain 20h au Centre Bell. Et si le Canadien l'échappe, ben à ce moment-là, on ferait face à l'élimination dès vendredi du côté de Riley. Fait que pas besoin de vous dire que c'est un match excessivement important. D'ailleurs, dans la finale de l'Ouest, l'Avalanche du Colorado fera contre toute attente face à l'élimination ce soir dès 21h face aux Golden Knights du côté de Las Vegas. Ce serait toute une surprise que cette série-là se termine avec un balayage. Mais avec un Carl Makar mal en point, avec un Nathan MacKinnon qui est aussi blessé maintenant, ça pourrait arriver. Coupe Memorial, dernier match de la ronde préliminaire pour les Saguenayens ce soir, 21h face aux Rangers de Kitchener. Un accès direct à la finale qui est toujours possible pour les Sags s'ils gagnent ce soir. Dans la NBA, les Knicks de New York qui accèdent à la grande finale après avoir balayé aisément les Cavaliers de Cleveland. Victoire de 130-93 hier. La série entre les Spurs et le Thunder égale 2-2 qui se poursuit ce soir pour savoir qui affrontera les Knicks en finale. MLB, défaite de 8-2 des Blue Jays en ouverture de série face aux Marlins. Autre duel entre les deux équipes ce soir. Et pour nos capitales de Québec, enfin, c'est jour d'ouverture locale. Ça se passe ce soir au Stade Canac face aux Miners.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation,